La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
Eh ben, c'est de retour pour la deuxième partie de cette midinale et du coup, on va causer sur un sujet dont on parle depuis quelques semaines et on va en reparler, je pense, c'est toute la saison. C'est la France-Afrique, c'est l'implication de la France en Afrique de différentes manières, souvent néocoloniales. Et du coup, les amis, là, vous allez nous parler, c'est d'actualité, de Thomas Sankara et du procès qui se tient en ce moment au Burkina Faso. On avait dit qu'on en reparlerait, et ben c'est parti.
Ouais, bah c'était à la suite de l'article que tu avais lu là, d'Afrique 21 sur l'exfiltration des dictateurs, là où il était question de l'exfiltration par l'armée française de Blaise Compaoré. Et du coup, on s'est mis un peu à s'intéresser au Burkina et au personnage de Thomas Sankara, donc, qui a fait la première révolution au Burkina en 1983. Et alors là, pour vous présenter un peu le personnage, on va vous passer une image d'archives qu'on trouve sur YouTube, qui est de l'INA, où il s'agit en gros d'un voyage qu'a fait François Mitterrand dans les pays de la France-Afrique. Alors je crois qu'il est passé au Togo, au Mali, et puis il a terminé par le Burkina Faso. Donc ça, c'est en 1986. Donc peu de temps avant, un an avant la mort de Thomas Sankara. Et les relations étaient déjà un peu tendues avec la France, puisque l'un des premiers gestes de Thomas Sankara, ça a été donc quelques mois après son arrivée au pouvoir, de se rendre au, je crois que c'était le 10e sommet France-Afrique à Vittel, et où il ne s'est pas rendu au dîner de l'Élysée et où il a annoncé en gros qu'il ne participerait plus au sommet France-Afrique. Je crois qu'il y a une interview là où pendant ce sommet-là, on l'interroge sur ce qu'il pense des relations France-Afrique et il répond de mémoire « je les trouve très françaises ». Et donc le Burkina a mis un moment avant de reparticiper au sommet France-Afrique. Ça s'est fait après quand Blaise Compaoré est revenu au pouvoir. Mais la position du Burkina, qui était quand même un des, si c'est pas le plus pauvre, un des pays les plus pauvres d'Afrique, était particulièrement tranché parce que le pays s'affirmait ouvertement et déclarait être anti-impérialiste, contre la colonisation, à tel point que, alors je ne sais pas si c'était le cas lors du voyage de François Mitterrand, mais à l'aéroport, il y avait une grande banderole qui affichait « Bienvenue au Burkina Faso », tombeau de l'impérialisme. Donc je sais qu'elle était là encore en 85, puisque j'ai vu un article de journaliste qui avait trouvé ça notable à sa descente de l'avion. Je ne sais pas si elle avait été conservée pour le voyage de François Mitterrand. Mais en tout cas, la couleur était annoncée, quoi. Donc on va peut-être passer...
Ouais, on va passer l'archive de l'INA. C'est donc une archive d'époque, hein, qui date de 86. Vous allez bien entendre... sentir tout le relan colonialiste ou néocolonial des journalistes français. Et surtout, dans cette archive, il y a une passe d'armes, un discours, enfin un échange entre Thomas Sankara et François Mitterrand qui en dit long, en fait, sur les relations qu'il peut y avoir entre la France et le Burkina. On écoute.
On bat. François Mitterrand achève sa tournée en Afrique hier à Ouagadougou. Le président de la République a été accueilli au cri de « Bonjour tonton ». Il faut dire qu'il visitait avec son épouse une garderie d'enfants. Jean-Michel Mercurolle.
Treillis, léopard, pistolet à la ceinture, Thomas Sankara mène sa révolution comme les visites officielles à coups de slogans. L'apartheid, l'impérialisme, Botha et Swahumbi, des mots scandés sur les pas du président français au milieu des portraits de bienvenue. Visite de quartier pilote, visite aux enfants des crèches, l'occasion pour le capitaine Sankara de montrer à François Mitterrand les premiers succès de sa fougue révolutionnaire. Le tout ponctué d'une touche de sympathie, le papa blanc devenant ici, dans la bouche des enfants, un affectueux tonton. Certes, des entretiens politiques en tête-à-tête se sont déroulés à Ouagadougou, mais c'est surtout le contact personnel entre les deux hommes qui a été mis en avant et qui a pris parfois un tour un peu surprenant.
Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours.
Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes. Mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
Un reproche amical, surtout pour signifier une réelle sympathie au jeune chef de l'État et lui souhaiter une réussite que la France est prête à aider.
Oui, donc un reproche amical. Oui, donc ce dîner-là est un peu, enfin le dîner qui précède est un peu particulier en fait, puisque Mitterrand arrivera, je crois, 2 heures en retard, quelque chose comme ça, parce qu'il était en train de gérer la mort du président de Renault, je crois, par action directe en ce moment, en même temps. Et du coup, Sankara, je crois, je l'ai pas retrouvé ce discours-là, mais il a tenu un discours d'un quart d'heure, encore sur l'anti-impérialisme, et où il pointait particulièrement l'ingérence des pays occidentaux, donc les États-Unis et la France, dans... les pays africains, quoi. Peter Botha, dont il est question là, était le premier ministre sud-africain. Et il venait de passer en France, je crois que c'était 5 jours avant, pour faire une visite. On apprendra après que la France fournissait en armes l'Afrique du Sud. Et pendant ce discours-là, donc, Sankara aurait déclaré à propos des...
Excusez, je peux ajouter quelque chose. Quand tu parles des armes que la France fournissait en Afrique du Sud, c'est le procès de l'ancien président Jacob Zuma qui était complice avec les Français qui fournissaient des armes en Afrique du Sud. Donc, Jacob Zuma en a fait les prisons. Donc, je t'informe que Jacob Zuma, l'ancien chef de l'État, en a fait les prisons, puisqu'il reprochait pour vendre les armes qui étaient fournies par la France.
Oui. Le souci qu'il y avait en ce qui concerne... Donc l'Afrique du Sud, là, c'est qu'il y avait un embargo sur la vente d'armes.
C'est ça.
Et que c'était un peu problématique, quoi. Donc évidemment, ça ne se faisait pas de manière officielle.
Officielle.
Mais donc la France, hein, qui avait besoin pour soutenir son industrie de l'armement, de vendre des armes, en vendait même au régime d'Afrique du Sud qui s'en servait dans ses politiques d'apartheid, quoi.
Oui, ça c'est vrai. Alors j'en profite aussi pour ceux qui ne savent pas Jacob Zuma. Et quoi, Thomas Sankara, je m'excuse.
Je t'en prie.
Ok. Donc, Thomas Sankara, une petite biographie, est né le 21 décembre, ce qu'on dit en Afrique, 1949, dans un village du Yoko, à Haute-Voltaire, à l'époque, et assassiné à Ouagadougou le 15 octobre 1987. Alors, il était marié à Madame Mariam Sankara. Père de deux enfants, Auguste Sankara et Philippe Sankara. Donc, c'est à l'âge de 33 ans qu'il était devenu chef de l'État. Mais parmi les discours des chefs de l'État à l'époque, Thomas Sankara, qui les Français aussi n'avaient pas apprécié, quand il disait, par exemple, quand il est arrivé au pouvoir, il dit aux pays occidentaux, en particulier la France, de ne pas payer des dettes aux pays occidentaux. La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous payons pas nos bailleurs de fonds, ne mourrons pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, nous allons mourir. Donc, c'est-à-dire que pour Thomas Sankara, c'est comme si l'Europe, les Occidentaux, ils devaient quelque chose à l'Afrique. Par contre, comme les Occidentaux croyaient qu'ils vont donner et que les pays africains puissent payer leurs dettes. Donc, on croyait peut-être que c'était quelque chose comme intoxiquer les Africains pour s'opposer aux Occidentaux. C'est parmi les choses un peu, on l'aime bien, mais faut qu'on soit un peu, était un peu dur. Il était un peu dur dans ce sens-là. Ok, qui était aussi Thomas Sankara, l'icône panafricaine de la lutte contre l'impérialisme. Comme je l'avais dit, le 15 octobre, le père de la révolution burkinabé est devenu une icône de la lutte contre l'impérialisme. Donc, comment Sankara est tué était lors d'un coup d'État formaté par quelques-uns de ses anciens compagnons. Parmi ses anciens compagnons, par là, je peux citer Blaise Compaoré. Puisque Blaise Compaoré, qui était son ami.
Et son bras droit.
Son bras droit. Bien que Thomas Sankara était son grand frère de 2 ans, puisque Thomas Sankara est né à 49, Blaise Compaoré à 51. Donc, ce sont des amis de longue date. Et après, un ami qui est devenu adversaire et ennemi. Donc, après plusieurs années, je peux dire qu'il y avait pas longtemps, au mois d'octobre ici, le procès de Thomas Sankara qui était ouvert.
Le procès de ses assassins.
De ses assassins. Merci beaucoup pour la précision.
C'est ouvert le 11 octobre, le dernier, là, au Burkina Faso, suite à un dépôt de plainte depuis des années par des associations qui militent pour la mémoire et la justice pour Thomas Sankara. Donc, c'est un procès historique.
Historique.
Qui s'est ouvert le 11 octobre dernier. Voilà. Pardon.
Mais ce qui est étonnant, les principaux assassins qui étaient Blaise Compaoré. On ne comprend pas, il fallait. Maintenant, il vit en Côte d'Ivoire en tant que citoyen ivoirien. Il a acquis la nationalité ivoirienne, bien sûr, mais on devrait quand même, pour que les procès soient équitables et qu'il soit quand même extradé en Burkina Faso. Pour que les procès soient vraiment équitables, puisque sa présence est vraiment utile. Donc, on aura le temps de donner des détails, puisqu'on suit de près sur l'évolution du procès. Voilà un petit mot que je voulais un peu ajouter à ce sujet.
Et du coup, merci, moi je vais enchaîner. Là, tu parlais de Blaise Compaoré qui effectivement, pour l'instant, n'est pas inquiété et et qui est même protégée par les autorités ivoiriennes. Depuis le départ de... Enfin, quelques temps avant l'assassinat de Sankara, il était déjà protégé par Oufouette-Boigny. Oufouette-Boigny qui est quand même l'ami africain proche du pouvoir français. Et où, là, si y a un absent qui est Blaise Compaoré au procès de Thomas Sankara, et où effectivement la, toute la lumière ne pourra pas être faite sans, sans que lui dise la vérité, il y a aussi des choses qui concernent la France et l'implication de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara, qui seront sans doute pas évoquées ou seulement survolées dans le procès en cours. Et je vais vous lire un texte que Asghar a trouvé dans un livre somme qui s'appelle « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique », qui vient de sortir avec pas mal de rédacteurs dedans qui font partie de l'association Survie. Et je vais lire un texte écrit par le journaliste Benoît Colomba et qui s'appelle l'ombre de la France derrière l'assassinat de Thomas Sankara ». C'est un article un peu long, mais il est, c'est nécessaire pour bien comprendre, encore une fois, toutes les implications concrètes qui concernent la France. Et puis vous allez voir, il y a quand même des déclarations d'anciens premiers ministres et chefs d'État français qui sont proprement hallucinantes. Alors c'est parti. Quel rôle a joué la France dans l'assassinat de Thomas Sankara ? Depuis le coup d'État du 15 octobre 1987 de Blaise Compaoré, au cours duquel le père de la révolution burkinabé a été éliminé avec 12 de ses proches, la question ne cesse de hanter les relations entre la France et ses anciennes colonies. Couvé par les dirigeants français comme par le président ivoirien Félix Oufouette-Boigny, Compaoré est finalement renversé par une insurrection populaire à l'automne 2014. Exfiltré par les forces spéciales françaises, il se réfugie à Abidjan, où Alassane Ouattara lui octroie aussitôt la nationalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire n'ayant pas d'accord d'extradition avec le Burkina Faso, Compaoré reste intouchable pour la justice burkinabé qui a relancé l'enquête sur l'assassinat de Sankara en 2015. Malgré cet obstacle, les autorités burkinabées décident en avril 2021 de renvoyer Compaoré devant un tribunal militaire pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. C'est le procès maintenant. Il est poursuivi aux côtés de son ex-chef d'état-major particulier, Gilbert Diendéré, détenu au Burkina Faso pour une tentative de putsch en 2015, et de 12 anciens militaires soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Sankara. Les investigations judiciaires menées par Ouagadougou, dont les conclusions ont été révélées en janvier 2021 par Hervé d'Afrique dans le bimensuel burkinabé Courrier confidentiel, pointe le rôle de la France à deux niveaux, avant et après l'assassinat. Premier point, Paris semblait parfaitement au courant d'une élimination programmée de Sankara, dont les positions agaçaient au plus haut point le président Mitterrand et son premier ministre Jacques Chirac. Deuxième élément compromettant, après l'assassinat, la France aurait envoyé sur place une équipe d'agents secrets afin de détruire les écoutes téléphoniques impliquant Blaise Compaoré et son commando. Entendu par la justice burkinabé en juillet 2018, l'ancien porteur de valises de billets de Jacques Chirac, devenu sarkozyste, Robert Bourgi, assure qu'il a tenté de mettre en garde le président burkinabé. Je cite « À l'époque de la première cohabitation, M. Focard me savait très proche du président Sankara », affirme-t-il. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est connu de personne. M. Focard m'a dit ceci « Robert, il serait bon que vous alliez à Ouaga afin de mettre en garde le président Sankara dont vous êtes l'ami. D'après ce que je sais, il pourrait lui arriver des désagréments. » Et Bourgi ajoute qu'il appelle dans la foulée Blaise Compaoré pour lui annoncer son arrivée. Une fois sur place, face à un Sankara surpris, disant vouloir éclaircir tout cela, Robert Bourgi lui aurait rétorqué « Thomas, le message vient de M. Focard. Il n'a pas l'habitude, comme tu le sais, de dire n'importe quoi. Sois donc prudent. » Et il précise sur procès-verbal que Focard avait des informations provenant de la DGSE sur cette menace imminente. grande fume à peine après l'assassinat de Sankara, ajoute l'ex-émissaire de Focard. Avant de conclure faussement naïf, l'assassin doit avoir été bien préparé et soutenu. Ça ne peut pas être un acte isolé. Je ne sais pas qui a préparé et soutenu cet assassinat. Si le récit de Bourgis doit être pris avec prudence, tant le personnage aime reconstituer les faits à son avantage, il a tout de même le mérite de restituer une certaine ambiance. Car la mise en garde de Bourgis ressemble fort, en réalité, à un avertissement, comme le suggère le témoignage d'un autre familier des coulisses de la France-Afrique, Guy Delbrel, directeur des relations extérieures avec l'Afrique d'Air France. Celui-ci raconte, sur procès-verbal, les confidences du journaliste, travaillant à l'époque pour Libération, Elio Comarin, bouleversé après une discussion qu'il a eue avec le Premier ministre français. J'ai noté avec précision les propos d'Elio, entendus quelques heures auparavant dans la bouche de Jacques Chirac. Celui-ci, mécontent du vote du Burkina Faso aux Nations Unies en faveur de l'autodétermination du peuple calédonien, réunit quelques journalistes, à qui il dit « Dites à votre petit capitaine qu'il commence à compter ses abattis. Le compte à rebours est déclenché. » Témoigne Guy Delbrel, abasourdi par la scène rapportée par Elio Comarin. Il n'y a pas que Jacques Chirac qui se fait menaçant. C'est aussi le cas de Félix Houphouët-Boigny, si l'on en croit plusieurs membres de son entourage. Interrogé par l'Humanité en avril 2021, son conseiller de l'époque, Robert Dulas, raconte que le président ivoirien avait compris qu'il était préférable de pencher du côté de la force. Je me souviens d'une conversation dans son bureau avec Omar Bongo, au bout du fil, et où Fouette lui disait « Le petit Sankara, il n'a pas compris. Fidel Castro, il a les Russes derrière lui. Mais le petit, il n'aura que les jeunes pour l'accompagner. Ce n'est pas suffisant. Il n'a pas encore assis son pouvoir qu'il s'attaque déjà aux Blancs. » Autrement dit, Sankara va trop loin. D'autant que les tentatives de corruption de l'homme qui, en 84, a rebaptisé la Haute Volta le pays des hommes intègres, se soldent par un échec. Convaincu que Blaise Compaoré a obtenu un feu vert d'Abidjan, voire de Paris, pour assassiner Thomas Sankara, Guy Delbrel dit avoir tenté d'alerter Sankara à l'époque. Mais ce dernier semble sceptique sur la volonté réelle de Compaoré de passer à l'acte, en répondant à Delbrel, « Le jour où la révolution fera couler le sang, nous aurons perdu. » Nous avions infiltré l'opposition burkinabé qui était en Côte d'Ivoire et financée par le président Houphouët-Boigny, témoigne pourtant un agent du renseignement burkinabé dans la procédure judiciaire. Il nous est revenu de façon formelle et précise que le président Houphouët-Boigny a dit à cette opposition d'arrêter son plan de déstabilisation parce que Blaise Compaoré allait se charger d'éliminer Sankara. Inflexible. Sankara devait donc disparaître, tout comme les traces de son assassinat. D'anciens agents burkinabés affirment ainsi sur procès-verbal que des espions français seraient intervenus pour effacer les traces d'écoutes téléphoniques compromettantes pour Blaise Compaoré et l'un de ses proches, le commandant en chef de la gendarmerie nationale, Jean-Pierre Palme. Nous avons pris les écoutes concernant Blaise Compaoré et Jean-Pierre Palme que nous nous sommes partagés avant de procéder à leur destruction, explique ainsi un témoin. Jean-Pierre Palme en personne est venu dans notre service, accompagné de Français. Il a récupéré toutes nos bandes d'enregistrement et toutes nos archives, y compris une table d'écoute portative qu'il a emportée avec lui. La table d'écoute téléphonique principale elle-même a été désactivée, puisqu'elle ne pouvait pas être emportée. Devant les enquêteurs burkinabés, Jean-Pierre Palme lui-même confirme la présence de militaires de la DGSE française à Ouagadougou au lendemain du 15 octobre 1987, indique encore la procédure judiciaire burkinabé. Peu loquace, l'ancien bras droit de Compaoré se contente d'expliquer qu'il s'agissait d'une mission française destinée à faire le point des matériels et des forces armées. Jean-Pierre Palme reconnaît que les espions français sont venus le rencontrer afin d'accéder aux transmissions. Mais il se dit incapable de préciser s'ils ont pris ou emporté quelque chose. La présence sur place d'espions français immédiatement après l'assassinat de Sankara soulève des questions. Nous savons que des agents de la DGSE française se sont rendus à la gendarmerie après le 15 octobre et ont travaillé avec les putschistes, affirme encore un ancien commandant de gendarmerie burkinabé. Est-ce une indication de leur implication, de leur collusion ? Je le crois. Si Jean-Pierre Palme ne livre aucun nom, l'un de ses anciens collaborateurs n'a pas cette prudence. Dès le lendemain de l'assassinat, le 16 octobre 1987, Jean-Pierre Palme est venu, accompagné d'un blanc qui serait un technicien, plus un autre qui serait un capitaine français, dénommé Baril, dit-il sur procès-verbal, en orthographiant ce nom avec un seul R. Un des deux blancs a suggéré à Jean-Pierre Palme d'arrêter le chef de service de la technique opérationnelle, chargé des écoutes, car il était très dangereux. Ce dernier confirme avoir été arrêté à l'époque par des blancs, probablement des Français, sans donner d'indication sur leur identité. Même s'il n'est corroboré par aucun élément dans la procédure, ce Baril sonne comme un coup de tonnerre. Il évoque immanquablement le nom du capitaine Paul Baril, ancien membre de la cellule antiterroriste de l'Élysée, reconverti dans la sécurité et la protection des dictatures proche-orientales ou africaines. L'homme a joué un rôle actif auprès des extrémistes Hutus durant le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais il semble peu probable qu'il livre ses explications dans l'assassinat de Sankara. En décembre 2020, une expertise d'un neurologue dans le dossier rwandais indiquait que sa maladie de Parkinson était parvenue à son niveau le plus élevé, ce qui ne lui permet plus de soutenir ni audition ni confrontation. La vérité jaillira-t-elle des archives françaises ? Rien n'est moins sûr. En novembre 2017, lors de sa venue à Ouagadougou pour son premier déplacement en Afrique, le président Macron s'était engagé à fournir tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui sont toujours couverts par le secret défense nationale. Or, la plupart des documents fournis jusqu'ici par Paris à la justice burkinabé sont des documents diplomatiques sans grand intérêt. En avril 2021, des archives portant sur la coopération de la police et de la gendarmerie française au Burkina Faso ont été transmises à Ouagadougou. C'est un article de Benoît Colomba, qui est quelqu'un, qui est un journaliste connaisseur de l'implication de la France dans tous ces systèmes autour de la France-Afrique. C'est quelqu'un qui notamment a écrit un livre autour de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
Juste, moi, je peux ouais, réagir. C'est juste que, en fait, là, en parlant du procès Sankara et de la révolution qu'a mené Thomas Sankara, pas tout seul, avec, on va dire, un gros mouvement populaire derrière, on aborde, du coup, les dessous de la France-Afrique, quoi. On en avait parlé la semaine dernière. En fait, juste, moi, ça me fait réagir par rapport à ce que j'avais dit de la définition de la France-Afrique. C'est une alliance des réseaux des élites françaises et africaines pour piller les pays, pour faire vite. Là, on voit dans l'article que tu as lu, là, de Benoît Colomba, que, en fait, derrière, c'est des affrontements idéologiques sur qu'est-ce qu'on veut faire de ces pays africains, anciennes colonies. Bon, on voit bien qu'en fait, on a installé des pions, une fois de Boigny en Côte d'Ivoire, Omar Bongo au Gabon, Senghor au Sénégal, etc. Là, Thomas Sankara, c'était pas possible, c'était l'ennemi de classe. Du coup, on s'en est débarrassé. C'est des vieilles techniques. Hein. Si on en reparlera, en fait, quand on causera de l'Empire qui ne veut pas mourir, du bouquin qui revient sur l'histoire de la France-Afrique, je veux dire, ces techniques d'assassinat politique, de fausses rumeurs, de faire disparaître des preuves, de faire une propagande massive en France et dans les pays là-bas avec des mensonges, etc. Des pots de vin, etc. Ça, c'est l'histoire de la France-Afrique. Donc au Cameroun, ça s'est passé. Au Togo, ça s'est passé comme ça, etc. C'est recommencé avec Thomas Sankara. Du coup, ce procès qui a lieu là en ce moment au Burkina Faso, il est très important. Je ne sais pas s'il pourra faire la lumière sur tout, mais en tout cas, je pense que les gens qui sont les parties civiles et qui ont déposé plainte, et en particulier la femme de Thomas Sankara, je pense que c'est leur volonté d'aller jusqu'au bout et de faire ressortir les implications françaises. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils vont se heurter à un système énorme face à eux qui a déjà fait disparaître des preuves. L'article, il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont disparu. Ça s'est passé pendant le génocide, après le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a des articles aussi, qui sont sortis là-dessus. Il y a eu des disparitions de preuves organisées par l'État français en fait. Donc on approfondira tout ça par la suite. Mais
voilà. Ok, j'allais ajouter une chose qui est, si vous allez constater que ça c'est le constat personnel. Donc le moment où Thomas Sankara a eu le pouvoir, et c'est vraiment le moment où l'Afrique avait plein de dictateurs. Il y avait Côte d'Ivoire au Fouet Boigny, au Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso, au Congo-Kinshasa Mobutu, au Cameroun Paul Biya. Tu vas aller au Rwanda à Biarimana, en Afrique du Sud Peter Botha. Donc tu vois que il était vraiment entouré, c'est pourquoi souvent on nous disait ces petits-là. Donc il était pris dans les ténailles, donc il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Et ce qui est étonnant malgré tout, c'est que ça reste une figure, et c'est pour ça que le procès là, qui s'ouvre à une valeur symbolique forte, ça reste une figure d'un pays, le plus pauvre quasiment d'Afrique, qui ouvertement, explicitement, s'est affirmé et a entamé sa révolution contre un système néocolonial qui s'était mis en place. C'est pour ça que la figure de Sankara, elle est importante. C'est-à-dire qu'entre les années 60, où les indépendances sont soi-disant accordées, et Thomas Sankara se met en place une forme de néocolonialisme, alors qui n'est plus une suprématie de la France directement politique, mais qui passe par un autre type de système qu'on a appelé le système France-Afrique, qui est une mise sous tutelle économique, militaire, culturelle avec la francophonie. Et Sankara est le premier, en tout cas de la zone francophone, à ouvertement s'affirmer contre cette politique-là, à la dénoncer et à l'affirmer là où il y avait tout un discours de l'État français qui était celui qui tenait à dire que les pays qui l'avaient voulu avaient pu avoir leur indépendance politique, avaient pu s'autodéterminer par eux-mêmes. Quoi. Donc Sankara est une véritable dénonciation du système France-Afrique 20 ans après sa mise en place. Et là où ce procès est tout à fait important, c'est que assassiner Thomas Sankara, ce n'est pas uniquement assassiner un putschiste, c'est assassiner un mouvement africain qui tend à vouloir s'émanciper d'une domination néocoloniale. Et c'est pour ça que ça reste un personnage tout à fait singulier, et que son passage au pouvoir entre 83 et 87 reste quelque chose, un élément de référence pour bon nombre d'Africains. Quoi. Et ce dont tu parlais, Nico, c'est-à-dire le fait qu'une politique se mette en place pour effacer ces traces-là, on le voit bien. Quoi. Là, le souci, c'est que Macron a fait cette déclaration-là en 2017, mais les éléments qui véritablement auraient pu apporter des éclaircissements continuent à être couverts par le secret politique, ils sont classés secret défense, et même ce troisième envoi de documentation qui relèverait de la préfecture de police, etc., ne contient absolument aucun des éléments qui pourraient être déterminants quant à l'implication de la France, puisque ces éléments-là sont classés par le secret défense. Ils viendraient du cabinet du ministre... du Premier ministre ou du Président, ou alors du ministère de la Défense. Et on voit bien qu'il y a malgré tout une volonté d'effacer toujours ou de ne pas donner prise à l'ingérence française en Afrique. Et du coup, je vais vous lire un autre extrait de « L'Empire qui ne veut pas mourir » et qui parle un peu justement de... ce qui a été qualifié de seconde révolution au Burkina, donc qui a eu lieu en 2014, et qui a conduit du coup à faire dégager Blaise Compaoré, et donc qui a permis justement, puisque Blaise Compaoré était au pouvoir depuis l'assassinat de Sankara, qui a permis l'ouverture de cette instruction sur la mort de Sankara. Donc je vous lis cet article pour donner une idée de l'importance que continue à avoir la figure de Sankara et de la manière dont la jeunesse burkinabèse s'en revendique toujours. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré, successeur et assassin de Thomas Sankara aux yeux de la jeunesse, est un pilier de la France-Afrique. Son pouvoir ne parvient pas à se départir de l'image criminelle que lui valent plusieurs assassinats, comme celui en 1998 du journaliste Norbert Zongo, très populaire et dont le martyr a profondément marqué la jeunesse du pays. Cette dernière, lycéenne et étudiante, se soulève de plus en plus régulièrement. En 2013, alors qu'il fait face à une dissidence au sein du parti présidentiel, Blaise Compaoré veut modifier l'article 37 de la Constitution afin de pouvoir se représenter 2 ans plus tard. Pour s'y opposer, le rappeur Smokey et le musicien de reggae Samskalja regroupent plusieurs associations actives depuis 2010 et créent le Ballet Citoyen, dont l'avocat Guy Hervé Cam devient le porte-parole. Le ballet, petit ustensile de nettoyage composé de plusieurs brindilles réunies sur un manche, rejoint ainsi l'image du point levé de Sankara, le point levé de Thomas Sankara, dont un logo d'appel à l'action. Le mouvement organise des concerts et des caravanes pour sensibiliser et mobiliser pendant plusieurs mois la population contre toute modification de l'article 37 et plus généralement pour réveiller les consciences. Des antennes, clubs cibales, pour citoyens balayeurs, sont ouverts dans le pays, dans la diaspora, ambassade cibale, et sur les réseaux sociaux, webclub cibale. Fin octobre 2014, le régime décide de faire passer l'amendement par la voie législative plutôt que référendaire. Un coup d'État constitutionnel aux yeux de l'opposition et la société civile qui appelle à y faire barrage. Des centaines de femmes décident alors de défiler dans la capitale, une spatule de cuisine à la main, en signe de défiance pour le pouvoir. Celui-ci réunit tout de même tous les députés acquis à la modification dans un lieu sécurisé. Le jeudi 30 octobre, jour du vote, des dizaines de milliers de manifestants affrontent les forces de l'ordre à main nue et marchent sur l'Assemblée nationale qu'ils incendient. Les manifestants se dirigent ensuite vers le palais de Compaoré où ils font face au régiment de sécurité présidentielle, RSP, du général Gilbert Diendéré. Bien que pacifiste, le soulèvement populaire se solde par une trentaine de morts. Dans une région où l'effondrement du Mali, la gestion des otages occidentaux et la recrudescence des groupes djihadistes faisait jusqu'ici du chef d'État burkinabé un élément essentiel de la stabilité, Paris suit les événements avec inquiétude. Alors que la jeunesse souhaite qu'il soit jugé pour les crimes de son régime, Blaise Compaoré est finalement exfiltré par la France et déposé en lieu sûr à Abidjan. Le 17 novembre 2014, un décret lui accorde même la nationalité ivoirienne. Durant la transition, les Cibales adoptent une position de sentinelle tout en vivant sous la menace de représailles de la part de l'ancien régime. S'ils appellent à la mobilisation contre un putsch tenté le 16 septembre 2015 par les hommes de Gilbert Diendéré, ils ne prennent pas position lors de l'élection présidentielle remportée 2 mois plus tard par l'ancien cadre du régime devenu opposant avant sa chute, Rochemar Christian Caboret. 3 ans après les insurrections en Tunisie et en Égypte, la chute de Blaise Compaoré, l'un des dirigeants les plus haïs de la jeunesse africaine, nourrit des discours de Thomas Sankara, galvanise les résistances et donne l'espoir d'en finir avec les régimes corrompus du sud du Sahara. Des militants expérimentés par des années de lutte au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Niger, mais aussi au Burundi et en République démocratique du Congo se fédèrent dans le cadre du collectif Tournons la page, TLP, qui affirme l'idée simple qu'il ne peut y avoir de démocratie sans alternance au pouvoir. Même si celle-ci ne suffit pas. L'exemple burkinabé le montre. Coordonnée avec l'aide d'une ONG française, le Secours catholique, la campagne permet la mise en lien des différentes initiatives nationales et tente de créer une pression collective sur les pouvoirs en place dès que l'un de ses membres subit la répression. Mais ce sont surtout de nouveaux mouvements créés par une jeunesse avide de changement qui naissent dans le sillage de l'insurrection burkinabé.
Merci. Et du coup, comme tu parlais de l'importance des rappeurs dans ces mouvements, mais aussi, Thomas Sankara, il est resté que 4 ans au pouvoir, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la culture. Du coup, c'est pas surprenant que ce soit repris par des gens qui font partie du monde culturel. On va écouter un morceau qui s'appelle « Un peuple, un combat » de Smokey, dont tu as parlé, enfin dont on parle dans cet article. Et puis après, on s'est dit que ce serait vraiment dommage qu'on passe pas un long morceau et un long moment avec Thomas Sankara, entendre sa voix, exposer ses idées, et ça reprend. C'est un discours sur l'annulation, enfin ne pas payer la dette dont tu parlais, Franklin. Et du coup, on va écouter le discours en entier de Thomas Sankara, et vous allez voir à quel point c'est toujours d'actualité, à quel point aussi il n'était pas dupe sur le fait qu'il soit isolé, qu'il soit gênant. C'est un discours qui est... il est particulièrement lucide sur ce qui va lui arriver. Et juste après ça, on écoutera un autre morceau qui s'appelle Sankara. Donc on revient dans une vingtaine de minutes.
Bah les citoyens de Montréal, Burkina, Canada, Sénégal, Haïti, un quinté sans tout cas. Bah les citoyens. Burkina, Canada, Sénégal, Haïti. Sommes-nous convaincus en payer le prix? Jeunesse prend tes responsabilités. Il serait temps de te politiser.
Au peuple fort du continent noir. L'humanité pliée devant l'économie. Levons-nous debout face à l'ennemi. Des autochtones d'Amérique du Nord. Au peuple fort du continent noir.
À chaque peuple un combat. À chaque peuple sa part de collabos de soldats. À chaque peuple sa part de renégats de tous les gars. À chaque endroit, à chaque fois s'élèvent des voix. À chaque jour suffit sa peine, Burkina Faso sa peine. Depuis la fin de la révolution de 83, depuis l'époque de Thomas Sankara, éliminé par son frère sous le tapis, la poussière, démocratie trentenaire. Et je vois que ça n'a pas changé depuis tabassage des étudiants. On les mate, mauvais jugement, tabassé plus pour les malfrats. Les vrais criminels sont à la tête de ce gouvernement. Oh, l'histoire qui mal y pense, ça ne peut pas être que de l'acharnement. Ils pillent, ils volent sereinement. Il serait temps de s'occuper de vos putains d'émoluments.
Awadi Supandara International is right. Libérer le génie, dire au peuple qu'il est béni. On va baliser le pays, s'affranchir de tous les maudits. On va lever les masses et puis occuper les places. Ils vont pilonner au gaz, mais on va pas céder la place. On va mettre dans le corps de la masse tous les frères qui se battent. Que le but ultime, il est noble. Minimiser les doutes et les pertes. Et celui qui tombe pour le but, il est noble. Voir l'Afrique unie, mon combat est défini. C'est clair, le smoke, j'en ai fini.
Burkina, Canada, Sénégal, Haïti, il se retombe.
L'humanité pliée devant l'économie.
Il se retombe. Jeunesse prend tes responsabilités. Il se retombe.
Des autochtones d'Amérique du Nord.
Il se retombe.
Peuple fort du continent noir.
Peuple sombre, c'est pas durable. Pascal. Ma vie vaut-elle plus qu'un million de nègres qui sont morts dans la guerre en vivant l'enfer? Mes pulsions me mènent à connaître la gêne de me sentir comme merde et de pas en m'intègre. J'ai besoin d'aide, Haïti bleed, orphelin sans bled, you wouldn't believe. Voilà que je suis déconnecté de l'Afrique, nègre de service, le Canada nous nie. Schizophrénie identitaire, dans un monde bipère, que de ma bipolaire, qui nous guérira de l'hiver, que nous impose, pose les compagnies minières. White privilege, white finger villages, black slavery, cash, donc le génocide. Les médias, je félicite avec vous d'ici, vous avez tué tout notre sens critique. Ouais.
Je vais écrire et m'écrier sans même prédire monter les escaliers. On a beau me dire que les grillés s'est fait griller il y a une couple d'années. Mon nez ne sait mentir, je suis sous leurs pieds, senti brûler ma vie, mon avenir. Mes coéquipiers, l'empire du pire, sous l'emprise le peuple qui ne sait même plus lire. Qu'est-ce qu'ils corrompent le heurte dans tous ces délires, qu'on complice de ces meurtres. Qu'est-ce qu'on peut élire sans se conduire à notre perte? L'air n'est plus vert, on se pose des questions, comme si après l'automne on attend que pousse le gazon. Science et prouvette, on impose nos rations, la seule en nos poubelles, ils sont de pauvres ratons.
L'humanité pliée devant l'économie.
Sommes-nous convaincus en payer le prix?
Les autochtones d'Amérique du Nord,
ils seraient temps de te politiser.
Le travail mais le combat des racailles. Monte-toi, come back, on doit combattre. On doit combattre dans la faille.
Me voilà, je parle à mille. Malade à ce gars-là, à la ville. Pas de valeur à part dollar, dollar bill. Les ados sont dos à dos, l'état voulait qu'on reste au cachot. Les fachos sont des marteaux, prêts à couper comme un exacto. J'ai pété les murs qui m'empêchent de passer et protéger les rues. Sinon qu'est-ce que va faire que les cellules de plus qu'on vendait le café. Si c'est le plus, je m'en vais, c'est assez.
On dit quoi?
On dit qu'un peuple qui n'a pas de combat est un peuple qui est conduit à l'abattoir des libertés sans rechigner. Réduit à l'état de purée, cette même purée lui sera resservie par un système froid, calculateur, fondamentalement éloigné de ses réalités, viscéralement féodale, malgré son apparente modernité. Et la boucle sera bouclée, 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 bouclée.
Au sujet de l'Alléluia, suivant le président Sankara.
Et c'est pourquoi je voudrais proposer, monsieur le président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présent à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici.
Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains.
Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples, nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. On ne peut pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre. Par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes. Sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge. Même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés. d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, monsieur le président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais monsieur le président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins, prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire, que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
En Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun.
Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raison pure qui passe l'envie en rire, tu peux en être sûr. Une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix Sankara. À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère que tu crois, chantant en ouvrant leurs bras, jeu auquel ne jouait pas Sankara. Tu ne sauras pas depuis quand ni même comment se mesure le nombre de tonnes de litres d'hydrocarbures. Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Faucard qui nous lie, amour qu'a pourtant subi Sankara. Loin de tout le rituel, des constats larmoyants, des jérémias habituels, du paternalisme ambiant, non. C'est un regard dans les yeux qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux. Sankara, si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre y serait trop fainéant, oh, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade. Ni un illuminé, ni un pharaon, un prophète ou un marat. Un soldat du Burkina, Sankara.
On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche de l'équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche.
La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant six fois la France. Et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira Sankara. Quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans l'amer espoir de s'écorcher les mains pour moins que le SMIC horaire. C'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara. Si tu penses qu'être d'Afrique implique de manière fausse de danser le coupé décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme Squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras, c'est pas un secret d'État. Sans ça, Lumumba l'aurait dit à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige, vampires de leur peuple, commerçants des richesses et du sang, embarrassés par le cran de Sankara. S'il faut mentionner un chef d'État africain dont il fallait se souvenir, dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone, lui abandonnant les siens pour un trône, ce serait bien Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara.
La Bible, le Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran.